soviétique par le père Philippe à Saint-Joseph le 26 février 1986.
Nous étions à la recherche de ce que représente le bien utile, qui est un moyen. Après avoir précisé le bien fin et en précisant le bien qui joue le rôle de causalité finale et donc qui détermine, spécifie, actue une intention de vie. Quand on est en face d'un bien non relatif, donc absolu, qui pour nous est la personne humaine en premier lieu, et Dieu dans une attitude religieuse. Ce bien est capable de mobiliser toutes nos forces et de réaliser en nous une intention de vie. Mais ce bien que nous aimons, vers lequel nous tendons, n'est pas immédiat. Nous verrons que dans l'amitié humaine, il y a quelque chose de particulier, mais ça je le verrai après. Normalement, le bien fin n'est pas donné immédiatement. Il y a un hiatus, un abîme entre ce que je suis dans ma situation concrète et ce bien vers lequel je tends. Et c'est pour ça qu'on appelle l'intention. Le mot intention montre bien que je tends vers ce bien. Et par le fait même, une fois que je suis mobilisé par ce bien fin, immédiatement, je distingue ce bien fin de tous les autres biens relatifs à ce bien. Ce qu'on appelle les moyens. Les moyens, ce sont des biens relatifs. Donc, ce qu'on utilise, on ne peut pas utiliser la fin. Ce serait contradictoire. Pour utiliser quelque chose, il faut le dominer. Or, je suis dominé par la fin. Je suis donc polarisé par la fin, ordonné vers la fin. Et je tends vers le point de vue de la fin. Tandis que quand il s'agit du bien moyen, c'est quelque chose d'immédiat. La substance domine les accidents. Les accidents sont relatifs à la substance et les moyens fins sont relatifs aux biens fins. Je veux dire que les biens moyens sont relatifs aux biens fins. Donc je peux les utiliser. Mais pour les utiliser, il faut les choisir. Un acte particulier de ma volonté. Et cet acte particulier de ma volonté, c'est de choisir ces moyens. Et les choisir comme des moyens. C'est complexe, le choix. Le choix regarde bien un bien. Mais un bien que je suis capable d'utiliser. Donc un bien que je domine. Je le domine par l'intention. C'est l'intention qui me permet de dominer ce bien. Donc, je le relativise en le dominant. Et en le dominant, je peux l'utiliser. Et le choix consiste justement à comprendre que ce bien, à la fois, me détermine. Donc, et en même temps, je le relativise. Oui, cette chose complexe du choix. Il y a deux choses dans le choix. Je suis déterminé et en même temps, j'utilise. En utilisant, je domine. Alors, comment comprendre cela? Comment comprendre cette proie irrécisse, ce choix? Comment comprendre cette élection, cet acte complexe de la volonté de l'intelligence? Parce qu'il y a les deux dans le choix. Et même, je dirais, dans le choix, la part de l'intelligence est très grande. Ça reste encore un acte volontaire, c'est sûr. Donc affectif. Le choix est affectif. Je te choisis parce que je t'aime. Te choisis. Je choisis ce petit remède parce que j'aime ma santé. Je choisis de faire des exercices de respiration dès que je me réveille parce que je veux être toute la journée de bonne humeur par amour pour mes frères et pour moi-même. Alors je fais ce petit exercice de respiration parce que je sais que ça m'aide. Et j'ai découvert que ça m'a aidé. Alors je le choisis. Vous voyez, j'aime ce moyen en fonction d'autre chose. Je ne l'aime pas pour lui-même. Je n'aime jamais un exercice de respiration pour lui-même. Je n'aime jamais faire un petit exercice de marche parce que ça m'a dit non, je le fais parce que je sais que ça me permet de maintenir un équilibre. Et si je ne maintiens pas cet équilibre, je serai de mauvaise humeur. Et c'est les autres qui en pâtiront. Et c'est moi-même qui en pâtira. Donc, j'aime ce moyen à cause d'autre chose. Vous voyez qu'il y a un ordre dans cet amour. Le choix, c'est un amour ordonné. Et l'ordre relève de l'intelligence. Il faut être intelligent pour ordonner. Si vous êtes passionné, vous n'ordonnez pas. Et vous devenez bête comme un mulet. Ah non, j'aime pas ça. C'est une gosse. On est toujours un peu gosse. Ah, j'aime pas ça. Mais on vous demande de ne pas l'aimer pas pour lui-même. Aimez-le pour autre chose. Soyez suffisamment intelligent dans votre amour pour contourner l'obstacle. Le moyen en lui-même n'est pas aimable. Et donc, ne suscite pas un amour. Parce que c'est un moyen. C'est comme l'accident en lui-même ne fait pas découvrir ce que c'est que l'être. Vous aurez beau indéfiniment regarder l'accident, vous ne découvrirez pas l'être. Vous découvrirez une forme. Et la forme peut cacher l'être. De même, le moyen en lui-même n'est pas aimable. Alors soyez suffisamment intelligent pour découvrir ce qui est aimable et ce qui est capable de susciter un amour. Et là, la passion, vous voyez, la passion est capable de cacher le véritable bien et de me mettre en face de ce bien relatif que je ne peux pas aimer, d'où la ruade de l'âme. On ne l'aime pas dans cet amour, on s'arrête. On fait ça constamment dans ces journées. Hein. Réfléchissez un tout petit peu. Quand un supérieur vous donne un ordre, vous dites c'est idiot. Mais c'est évident, c'est idiot. Tout à fait d'accord. Ce qu'il vous ordonne est idiot. Par nature. Parce qu'il ne vous ordonne jamais d'aimer. Il vous ordonne un moyen à faire. Vous ferez cela. Alors, vous êtes en face de ça et vous dites tout de suite c'est idiot. Mais soyez intelligent. L'obéissance est un moyen pour atteindre. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Et si vous refusez l'obéissance, c'est parce que vous n'aimez pas assez. Vous avez choisi comme moyen l'obéissance pour atteindre la fin. Mais quand vous êtes passionné, vous oubliez l'amour du bien fin. Et vous êtes en face d'un mur, et vous vous arrêtez. Et vous ruez. Alors prenez vos les a à moitié dominés. Pas totalement, parce qu'on n'a qu'un pouvoir politique. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup de savoir que dans certains domaines, on est d'une fragilité particulière. Et donc, on est lucide. Voyez comment l'intelligence joue un rôle essentiel pour m'empêcher de me cabrer. C'est la passion qui me fait cabrer. C'est un animal qui rue. Et je suis capable de ruer. Et je rue plusieurs fois par jour. Si je suis suffisamment lucide. Et ne dites pas que vous n'avez jamais rué. Parce que tous, nous sommes animaux. C'est l'aspect générique. Et on est animal par ses passions. Et quand les passions ne sont pas dominées par l'intelligence, devant un bien relatif, qu'on me dit de faire, je dis non. Parce que je n'ai pas compris que ce bien relatif n'était pas aimable par lui-même. Je dois aimer la vérité pour travailler. Ce n'est pas aimable de travailler. C'est vrai. Je lis ce texte, je n'y comprends rien. Ben oui, relisez deux fois, trois fois, quatre fois, vous le comprendrez. Si vous avez un grand amour de la vérité, vous acceptez le travail. Mais il faut un grand amour de la vérité. S'il n'y a pas ce grand amour de la vérité, vous ne travaillerez jamais. Et vous deviendrez un imbécile, parce que vous n'aurez pas travaillé. Vous devenez intelligent en travaillant. C'est en travaillant que devient intelligent. C'est en travaillant notre intelligence civile. Oui, essayons de comprendre dans notre vie ce que c'est que le choix d'un moyen. Le moyen n'est aimable qu'en fonction d'un amour du bien fin. Alors à ce moment-là, je commence à comprendre que dans tout choix, il y a une grande part d'intelligence. L'intelligence pratique. L'intelligence affective. L'intelligence affective, elle est capable de contourner les obstacles. C'est ça être intelligent. C'est d'avoir une stratégie. On a tous une petite stratégie. Contourner les obstacles. Si vous foncez dessus, mais vous n'arriverez pas. Alors il faut être suffisamment intelligent pour comprendre qu'un moyen n'est aimable qu'en fonction d'une fin. Et contourner l'obstacle, c'est découvrir l'ordre de ce moyen vis-à-vis de la fin et ne pas être obtus. On devient très vite obtus. Obtus, c'est justement ne regarder que le moyen et dire tout simplement ce moyen n'est pas aimable. Mais c'est évident qu'il n'est pas aimable. Il est un moyen. Et l'obéissance porte sur des moyens. Tout simplement. Alors évidemment, vous avez votre stratégie et le supérieur à la sienne. Et c'est là la difficulté. C'est là où vous êtes suffisamment intelligent pour comprendre que la stratégie du supérieur n'est pas la vôtre. Et que fatalement, c'est pas la même. Parce que vous êtes fantassin sur le terrain et le supérieur est un peu plus loin. Donc il voit des objectifs un peu plus lointains que vous. Vous voyez les conflits. Les conflits viennent toujours de ça. Les conflits sont au niveau des moyens, pas au niveau de la fin. Et c'est pour ça qu'il faut beaucoup d'intelligence pour le choix des moyens. Et le choix des moyens réclame beaucoup d'intelligence. Et en même temps qu'il y a l'intelligence, immédiatement on relativise. Et dès qu'on relativise, les passions s'apaisent. Les passions sont assumées en relativisant. Des moyens. Je convois alors à ce moment-là que dans le choix, il y a toujours l'intelligence qui ordonne en vue de la fin. Mais cet ordre se fait à l'intérieur de l'amour du bien fin, donc de la personne que j'aime, de Dieu que j'aime. Et c'est en fonction de cet amour que je suis capable de prendre le recul affectif nécessaire pour pouvoir ordonner les différents moyens. Voyez donc que l'élection, c'est l'intelligence qui ordonne les moyens en vue de la fin. Et c'est cette intelligence au service de l'amour de la fin qui enrichit mon amour de la fin en aimant les moyens. Il y a un véritable amour. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. Ça, c'est l'amour des moyens. On aime les petits. Et aimer les petits, c'est aimer les moyens. Parce que les moyens sont toujours les petits en vue de la fin. Et ils enrichissent. Vous voyez, c'est là qu'on voit toute la différence qui existe d'une intelligence affective, de l'intelligence spéculative. L'intelligence spéculative abstraite. L'intelligence affective ne peut pas abstraire. Donc elle se sert des moyens en vue de la fin. Tandis que l'intelligence spéculative abstrait les accidents. Je les récupère après d'une certaine manière quand je regarde les propriétés. Mais l'abstraction est rapide alors que la connaissance affective, implique l'enrichissement. La spiritualité du boulot, la spiritualité du cèdre. La connaissance affective, pratique, c'est toujours le cèdre. Et si vous voulez le boulot du côté affectif, vous faites des erreurs très graves. Parce que vous oubliez que pour atteindre la fin, il faut les moyens. Donc, la complexité. Ça, c'est très important de comprendre la complexité du choix, que le choix implique toujours l'affectivité. Et ce qui complique, c'est que c'est une affectivité qui porte sur des moyens, donc des choses que je vois, des choses visibles, des choses sensibles. La fin, elle est au-delà. Les moyens sont immédiats. Et par le fait même, la passion est éveillée. La fin, c'est au-delà des passions, c'est mon amour spirituel. Tandis qu'au contraire, dans le choix des moyens, puisque les moyens sont toujours d'ordre sensible, ils sont toujours ce qui éveille la passion. Et ce qui éveille la passion sur les moyens, c'est quelque chose d'assez encombrant. Il faut donc arriver à avoir suffisamment de recul. Et de maîtrise de soi pour que les passions ne soient pas trop véhémentes et ne soient pas trop remplies d'imaginaire pour assombrir la fin. Parce que quand je suis dans le domaine de l'élection, il y a tout le domaine passionnel. Je suis dans le domaine de la fin, du bien-fin. J'ai dépassé les passions. Mais je ne peux pas demeurer dans ce dépassement. J'ai besoin du choix des moyens. Et le choix des moyens implique nécessairement un aspect passionnel, un aspect sensible. Voyez, c'est là où vous voyez toute la différence entre une éthique réaliste et une éthique stoïcienne. L'éthique stoïcienne méprise les passions. Donc l'éthique stoïcienne risque de toujours d'appliquer au domaine affectif, pratique, ce qui est vrai du domaine spéculatif. L'erreur du stoïcisme, c'est de ne pas avoir distingué suffisamment l'aspect de la connaissance spéculative et de la connaissance pratique. Et en effet, le stoïcisme, l'éthique stoïcienne supprime la contemplation. Donc supprime la connaissance spéculative. Et on ramène tout à l'aspect pratique. saisir d'un monde spéculatif. Les deux, toujours, cèdent mutuellement. Une vision nette du point de vue spéculatif aide à mieux comprendre le point de vue pratique. Et le point de vue pratique aide le point de vue spéculatif. Les deux s'interfèrent constamment. Vous voyez, c'est difficile d'être intelligent. Parce que ça exige justement cette distinction constante des deux. Alors, si vous êtes plus intelligent du côté pratique, vous avez très bien développé cette connaissance pratique d'une façon intelligente. Et ça vous aidera à mieux comprendre le point de vue spéculatif. Si vous avez un développement spéculatif plus immédiat, parce que vous êtes plus spontanément spéculatif, aidez-vous de la connaissance spéculative pour mieux connaître la connaissance pratique. C'est là où il faut tout le temps, point de vue philosophique, jongler analogiquement du côté spéculatif et du côté pratique. Vous ne pouvez pas exclure cette distinction. Connaissance spéculative, connaissance pratique. Et l'analogie, c'est tout simplement substance-accident, substance-qualité. Fin, moyen. Une fois que j'ai compris la complexité du choix, le choix se fait à l'intérieur de mes passions. Et c'est très important de comprendre que ça se fait à l'intérieur de mes passions. Et parce que ça se fait à l'intérieur de mes passions, je suis suffisamment lucide pour comprendre que je suis celui qui choisit subjectivement et celui qui doit tendre vers la fin. J'ai donc besoin de conseils. Tout choix intelligent réclame un conseil. Le conseil, c'est quoi? C'est savoir que je suis engagé d'une façon subjective, d'une façon telle que je ne peux pas être totalement objectif. Mais d'être suffisamment lucide pour comprendre que j'ai besoin de l'autre pour garder l'objectivité. Quand l'imaginaire domine, je ne demande plus conseil. Ça, c'est très net. Quelqu'un qui est halluciné ne demande jamais conseil. Quelqu'un qui est saisi par l'imaginaire ne demande plus conseil. Entêté. Et quand on veut lui donner conseil, il vous renvoie promener. C'est très curieux, ça. Vous voyez, celui qui garde un aspect suffisamment objectif et réaliste sait que quand il choisit quelque chose, il a besoin de conseil. Le conseil ne le fait pas choisir. Le conseil l'informe sur la qualité des moyens, sur l'objectivité des moyens. Ce moyen est-il bon ou est-il mauvais? Ce moyen est-il efficace ou n'est-il absolument aucune efficacité? J'ai besoin, dans le choix, étant donné la situation dans laquelle je me trouve, parce que je suis engagé dans le choix, j'ai besoin du conseil. Le conseil objectif le choix. C'est très beau, ça. c'est l'artiste qui a dominé le point de vue moral. Si au contraire vous demandez conseil, ah c'est très bien, mais comprenez que c'est vous qui devez déterminer. Et si vous restez tout le temps dans la phase du conseil, ça prouve qu'il y a un scrupule qui contamine et qui empêche que vous choisissez. Le scrupule ne choisit jamais. Il ne cesse de demander conseil indéfiniment. Mais c'est juste l'inverse de l'artiste. Et je crois que les deux doivent se comprendre l'un par rapport à l'autre. Le scrupuleux, il ne se décide jamais. Alors il y a un scrupule de l'intellectuel. Et il y a un scrupule affectif. Il y a deux espèces de scrupules. Le scrupule intellectuel, c'est l'intellectuel qui voit la complexité. Alors, ne se décide jamais. La maladie de l'intellectuel, la cérébralisation, c'est celui qui ne décide jamais. Parce qu'il voit, c'est tellement complexe. C'est vrai, dès que je suis dans une phase d'information, je vois qu'il y a des opinions contradictoires. Dans tous les domaines, même en médecine, même en homéopathie, il y a des aspects contradictoires. Il y a des théories diverses. Et je vois donc tout de suite cette diversité. Alors, en intellectuel, je dis, je ne peux pas choisir. Je vois ces deux avenues différentes. C'est vrai. Dans l'ordre des techniques, il y a des techniques diverses. Alors, l'intellectuel qui est en moi, en chacun d'entre nous, n'arrive pas à choisir. Parce qu'il y a une information trop grande dans notre monde scientifique et technique. L'information relativise. Et relativise tellement qu'au bout d'un certain temps, je n'ai plus choisi. La maladie de la cérébralisation. Et puis il y a le scrupule du côté affectif. Le scrupule du côté moral. La relativité des moyens et qui fait que aucun moyen n'est absolument pur. Tout moyen implique nécessairement quelque chose qui n'est pas absolu puisque c'est un moyen. Donc il implique une certaine opacité et le scrupule voudrait la limpidité dans l'ordre des moyens qu'on trouve dans l'ordre de la foi. La pureté du cœur et le choix. Chaque fois que vous vous engagez du côté du choix, vous ne pouvez pas avoir la même limpidité que lorsqu'il s'agit de la foi. Et donc vous confondez la béatitude des cœurs purs avec le choix. Et vous tombez dans le scrupule affectif. Et ça, c'est l'imaginaire qui fait ça. Vous voyez, l'imaginaire confond le domaine de la foi et le domaine des moyens affectifs. Alors, vous êtes en présence du scrupule affectif, du scrupule moral. Nous avons tous connu, à un moment donné, la possibilité de tomber dans le scrupule. Alors, on ne choisit jamais. On ne choisit jamais. Alors, vous faites une retraite de Saint-Ignace et vous déboussolez celui qui vous conseille parce que vous dites, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, impossible, impossible, je ne peux pas choisir. Oui, c'est tout à fait autre chose que le cérébral, la cérébralisation de l'affectivité. Mais des deux côtés, c'est l'imaginaire. Des deux côtés, c'est l'imaginaire. L'imaginaire des possibles intellectuels et l'imaginaire du possible affectif. C'est très curieux, ça. C'est très intéressant de voir le manque de distinction des moyens et de la fin. Du choix. C'est très important de bien comprendre ça, de bien saisir qu'il faut choisir. C'est nécessaire de choisir des moyens. Alors, dans le choix, il y a toujours deux aspects qui se présentent à nous. La manière estimons les moyens les plus proches de notre affectivité, les plus proches de nous. C'est pour ça que c'est tellement révélateur de voir les choix, les élections. Et quelqu'un qui dirige une retraite de Saint-Ignace, il est là pour regarder dans la plus grande objectivité la manière dont on choisit. S'il est intelligent. C'est un petit peu, vous voyez, d'une autre manière, comme un psychanalyste qui veut rester absolument objectif. Voir comment vous avez choisi dans votre vie. Le psychanalyste est à l'égard du passé. Et donc l'imaginaire est beaucoup plus grand. Tandis que celui qui dirige une retraite de Saint-Ignace est à l'égard de l'instant présent. Il s'agit de choisir à la fin de la retraite. Allez-vous entrer au séminaire? Allez-vous entrer dans une communauté religieuse? Allez-vous entrer dans telle communauté religieuse contemplative ou une communauté religieuse active? Allez-vous entrer dans tel aspect? L'autre. Mais c'est ça, choisir en face des moyens suffisamment informés pour bien choisir. Eh bien, de fait, le choix que l'on porte suivant la vigueur affective que vous avez, vous êtes né pour l'héroïne. Descendre le fleuve. Notre tempérament. En nous, il y a les deux, remarquez. Il y a l'héroïsme à certains moments. Et puis il y a le fléma de premier ordre qui renaît de temps en temps. Le fléma de premier ordre dit « Oh, je sais, je sais. Je connais tout ça. Alors je relativise d'une façon étonnante. Je descends le fleuve. J'en ai tellement vu déjà dans ma vie. Ils ont dit ça à 20 ans. Oui, très bien. J'en ai déjà tellement vu. Ah, vous en verrez d'autres. Mais en flemmard. Toute votre vie, vous resterez un flemmard. Et vous serez marqué par la flemme. Vous avez opté pour la flemme. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont opté pour la flemme à 22 ans. Ou à 25 ans. Ce qui est pire. Ils ont opté pour la flemme. Ils choisissent tout le temps les moyens les plus flemmards. Ça existe. Il y a des tempéraments de flemmards. Il n'y a pas de vertu de flemmards, mais il y a des tempéraments de flemmards. Il y a des tempéraments de gens qui n'en veulent pas trop. Surtout pas trop. C'est pas commode pour le Saint-Esprit de mettre la sainteté dans un tempérament de flemmards. Parce que le tempérament de flemmards opte tout le temps pour là où il y a moins de difficultés. C'est l'option minimale. Il faut choisir là où il y a moins de difficultés. Si on est un peu lucide, on sait très bien qu'il y en a un flemmard. Il ne faut pas qu'il domine ce flemmard. Il existe. Il est là. Alors on donne de très bonnes raisons. Je sais très bien, je n'ai pas beaucoup de santé. Alors, parce que je n'ai pas beaucoup de santé, j'ai compris qu'il ne fallait jamais, pour moi, aller trop loin. Parce qu'autrement, je casse. Et donc, je dois toujours choisir le meilleur fauteuil. Le fauteuil qui, où je suis le mieux. Que voulez-vous, je suis comme ça. Je le sais, je me connais. Alors, vous canonisez la flemme. Et vous avez canonisé la flemme. C'est, ça existe en nous. Il faut quand même être suffisamment lucide. Pour savoir qu'il y a un flemmard qui dort. Alors, les autres le voient tout de suite. Et nous, on a beaucoup de peine à le voir. On met très longtemps à le voir. Si on avait demandé un peu plus de conseils, on verrait mieux. Le flemmard opte toujours pour le moyen le plus facile. En disant, j'aime mieux ça. Ça mettra plus longtemps, mais j'aime mieux ça. C'est plus facile. Et puis en nous, revient en nous grâce à l'iracine. Quelque chose qui nous appelle à l'héroïsme. On veut être victorieux. L'iracine, c'est celui qui veut être victorieux et donc qui choisit toujours le bien le plus difficile. Et il y a l'option du bien toujours plus difficile. Et dans une communauté, hein, comme c'est difficile. Les flemmards à droite, à gauche, les irascibles à droite, parce que c'est comme ça que ça doit se faire. Les flemmards, toujours ce qui est plus facile. Par définition, depuis mon berceau, j'ai choisi ce qui avait de plus facile. Oui, j'ai eu des parents qui étaient tellement bons, oh, tellement bons, ils me laissaient dans mon berceau le plus longtemps possible, parce que par le fait même là, je les ennuyais. Dormais. Alors je continue de dormir. Et l'avantage de dormir, c'est que je n'ennuie personne. Oui, mes excellentes raisons. Les racines. Ah non, je veux la conquête. J'y vais pour ça. J'y vais pour l'héroïne. J'y vais pour les choses civiles, les situations les plus difficiles. Oui, il y a en nous, en chacun d'entre nous, le concupiscible et l'irascible. Donc en chacun d'entre nous, il y a une plateforme du flemmard et la plateforme de l'héros, du héros qui doit arriver à atteindre toujours le bien difficile. Eh bien, dans le choix, on retrouve toujours ces deux aspects. Vous choisissez le moyen le plus proche de la fin, ou vous choisissez le moyen le plus proche. Votre adaptation à vous. C'est très curieux. Et vous voyez ça tout de suite quand vous entrez dans une maison que vous ne connaissez pas. Vous voyez tout de suite les élections qui se sont faites. Il y a des foyers en vue de l'héroïsme. Il y a des foyers en vue de la facilité. Il y a des communautés héroïques et il y a des communautés envie de la facilité. Il y a des moments où l'héroïne domine le carême. Hein? Tous les flemmards doivent se réveiller. Oh, j'aime pas le carême parce que je dois me réveiller de ma flemme. Au fond, si on était loyal, on dirait ça. Je dois me réveiller de ma flemme. C'est tellement plus agréable le temps de Pâques. Parce qu'à ce moment-là, oh, c'est merveilleux, c'est l'alléluia. Alors, c'est extraordinaire. Je dis ça parce que je crois que c'est très important au point de vue philosophique. Il faut être lucide vis-à-vis de soi. On a un tempérament de flemmard. Mais reconnaissons-le et luttons contre. Parce que les flemmards qui ont accepté d'être flemmards ne font rien dans leur vie. Ils deviennent des parasites. Des parasites d'une communauté. Alors ils s'accrochent. Et c'est la remorque. Il faut faire attention au tournant. Il ne faut pas être dans le fossé. Alors c'est la remorque. On tient bien. Plus qu'on peut, c'est la remorque. Mais vous, j'ai compris. Moi, je ne pouvais jamais marcher seul. Alors je me suis mis en remorque. Et puis, il y a ceux, au contraire, qui ont opté pour l'héroïsme. Il y a les deux en nous. Alors évidemment, quand on est formé, à 45 ans, il y en a un qui te à 20 ans, 22 ans, 25 ans, les deux sont présents. Alors, on a opté pour l'héroïsme, on a craqué, j'ai compris. Attention, non. On peut craquer, parce que c'est normal qu'on craque. Un sportif, il commence tout le temps, jusqu'au moment où il a fait. Celui qui est héroïque, il sait que dans l'héroïsme, il y a des difficultés, et donc il y a des moments où on craquera. C'est évident, c'est pas parce qu'on craque qu'il ne faut pas recommencer. Vous voyez, les motifs qu'on se donne, les complicités qu'on se donne, parce qu'il y a une complicité terrible en concupiscible. Je crois que c'est très important de comprendre ça. et d'héroïsme. Alors si on pouvait la mesurer, mais ce serait très curieux au début du carême. On verrait ça. Alors on dirait, vous voulez pas, allez, sortez de la coquille, sortez du berceau, dormez un peu moins, soyez plus éveillés. Et on verrait par rapport à ceux qui sont héroïques. Faites attention. Ne tendez pas trop l'arc. Attention. Mais continuez cet effort. C'est bien. Parce qu'on doit toujours vivre l'héroïsme. Alors voyez, le choix, hein, c'est très important d'essayer d'être un peu lucide vis-à-vis de ses choix. Réfléchissez sur les choix faits au début du carême. Et soyez loyal philosophiquement à l'égard de ses choix. Et voyez la part qui relève en vous de celui qui aime mieux le bien facile. Parce que le bien facile, c'est celui qui est en code naturalité avec notre sensibilité, notre affectivité actuelle. Alors, ce qui est terrible, c'est de ne pas vouloir être lucide. Ça, je crois que c'est grave.